J'ai intitulé ce message, qui est toujours sur l'évangile de Jean, que je continue. Hein. Impuissance de Satan et de ceux qui lui obéissent. Émerveillement de ceux auxquels le Seigneur se révèle. Nous avions terminé la lecture du chapitre 19 de Jean par les versets 38 à 42. On va les relire ensemble. Donc Jean 19. Verset 38. Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée, c'est-à-dire après la crucifixion du Seigneur, hein, Joseph d'Arimathée, elle a demandé à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilogrammes d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates, selon l'usage funéraire des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Ainsi donc, le corps de Jésus est placé dans un tombeau neuf appartenant à Joseph d'Arimathée. Ce notable et son ami et docteur de la loi Nicodème ont rendu de grands honneurs à son corps. En l'enveloppant dans des linges funéraires coûteux, un drap de lin, hein, et des aromates en très grande quantité, également certainement de très grande valeur. Ça nous rappelle que de son vivant, notre Seigneur a été l'objet d'une onction d'un parfum de grand prix par Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Ce « gaspillage » entre guillemets avait choqué Judas au point de le lui reprocher ouvertement, mais Jésus avait pris la défense de Marie, disant qu'elle avait en quelque sorte anticipé sa sépulture et que son geste serait consigné dans les Écritures et admiré par toutes les générations de croyants parce que c'était un geste avant tout d'amour et aussi de grande intelligence spirituelle. C'est donc le soir de la préparation de la Pâque. Personne ne pourra rien faire de plus jusqu'à ce qu'elle soit passée. Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 57. Matthieu 27, à partir du verset 57. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis, il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette première supercherie, c'est encore pire que la première. Cette dernière supercherie, pardon, c'est encore pire que la première. Pilate leur déclara, « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Donc on vient de le voir, les chefs des prêtres et les pharisiens craignent que les disciples de Jésus ne viennent dérober son corps, ce qui leur permettrait de répandre la fausse rumeur qu'il serait ressuscité des morts. Les violations de sépulture étaient courantes dans l'Antiquité. Et pas seulement d'ailleurs dans l'Antiquité, on en a eu encore un exemple tout récemment dans notre pays. Le mobile de ces actes odieux était à l'époque le plus souvent la cupidité. Voler tout ce que l'on pouvait récupérer de monnayable, dans le cas présent sans doute les linges funéraires et les aromates. Alors ils obtiennent de Pilate de faire garder le tombeau par des soldats et même d'y apposer des scellés. Ironie de Dieu. Le Saint-Esprit a donné plus tard une vision à Jean, l'auteur de l'évangile qu'on a lu, consigné dans son livre de l'Apocalypse, où il voit un ange saisir le serpent ancien, qui est le diable et Satan, le jeter dans l'abîme et y apposer des scellés, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations pendant un temps fixé par Dieu. Le diable a poussé les chefs religieux à faire apposer des scellés sur le tombeau de Jésus, mais un jour, c'est lui qui se trouvera sous scellé, au moins pour un temps, avant de subir lui-même le châtiment éternel. Le dimanche matin, la pierre qui fermait l'entrée du tombeau a été roulée et le corps de Jésus a disparu. Lisons ce récit dans Matthieu 28, versets 2 à 4. Matthieu 28, verset 2. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Lisons aussi les versets 11 à 15. Pendant que les femmes qui étaient venues au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ses consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle a cours jusqu'à aujourd'hui, nous dit Matthieu. Disparition inexplicable. Malgré la garde censée surveiller le tombeau et les scellés qui devaient témoigner d'une éventuelle violation de sépulture si jamais il y en avait une. Tentative humaine dérisoire pour s'opposer au plan souverain de Dieu. Les gardes sont donc chargés de répandre le mensonge que ce sont les disciples de Jésus qui ont enlevé son corps. Matthieu, l'auteur du premier évangile, atteste que cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle a cours jusqu'à aujourd'hui, dit-il. Il s'agit bien sûr de l'aujourd'hui de la rédaction de l'évangile de Matthieu, autour des années 60. Je ne sais pas si cette théorie est toujours avancée par les religieux juifs actuels. Je ne sais pas. Peut-être tu sais, non ? Non ? Alors, lisons maintenant le récit de Jean 20, hein, qui est l'objet de mon message. On revient à l'évangile de Jean, chapitre 20. On va lire les versets 1 à 18. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre. Et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. D'après les autres évangiles, Marie de Magdala n'est pas venue seule au tombeau ce dimanche matin, alors qu'il faisait encore très sombre. Elle était accompagnée de celle qui est simplement désignée comme l'autre Marie. Et dans d'autres évangiles, on voit que c'était la mère de Jacques et de Joseph. Leur intention était d'embaumer le corps de Jésus. Elle ne savait probablement pas que Joseph d'Arimathée et Nicodème l'avaient déjà fait. Mais c'est encore un témoignage de l'affection de ces femmes qui avait suivi et servi Jésus durant son ministère terrestre. Mais Jean centre son récit particulièrement sur Marie de Magdala. Dès qu'elle voit que la pierre a été ôtée de l'entrée du sépulcre, elle court prévenir Pierre et Jean. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre et Jean courent au tombeau. Jean, probablement le plus jeune, arrive le premier. Mais il n'ose pas entrer dans le tombeau. Pierre arrive à son tour et lui, il y rentre, finalement suivi de Jean. Et que constate-t-il ? Eh bien, le corps de Jésus n'y est plus, comme le Saint-Sépulcre actuel. Hein, il y a certainement toujours. Il n'y a pas de corps dedans. Mais les linges funéraires sont à terre et le linge qui avait enveloppé sa tête est même roulé à part. Jean, qui raconte cela, nous dit qu'il vit et qu'il crut. Et il ajoute ce commentaire au verset 9. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. C'est étonnant, hein ? L'Écriture de l'époque, c'était bien sûr l'Ancien Testament. Pierre la citera en acte 2 dans son grand discours à la foule, étonné par les phénomènes de puissance de la Pentecôte. Il cite un psaume de David, le psaume 16, verset 10. « Tu n'abandonneras pas mon âme dans la tombe. » Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Et Pierre ajoute que le roi David ne parlait pas de lui-même, mais qu'il avait en fait prophétisé la résurrection du Christ, le véritable fils de David. Cette vue du tombeau vide et des linges funéraires défaits et même soigneusement rangés a convaincu Jean de la réalité de la résurrection de son maître. Rappelez-vous que Jean avait certainement assisté, c'est même certain puisqu'il le raconte dans son évangile, à la résurrection de l'ami de Jésus, Lazare. Le mort qui sentait déjà, qui avait donc déjà commencé sa décomposition. était sorti du tombeau, enveloppé de linge funéraire, et le visage recouvert d'un linge. Jésus avait dû donner l'ordre de le délier et de le laisser aller. Mais là, Jean constate de ses propres yeux que Jésus s'est en quelque sorte délié tout seul de tout l'appareil funéraire, linges et aromates, et cette vue l'a amené à la foi dans la résurrection de son maître. Quand je dis que Jésus s'est débarrassé tout seul des linges funéraires et des aromates, il se peut qu'il soit simplement passé à travers. Car comme le récit le mentionne par la suite, les murs et les portes, même les plus soigneusement fermées, n'étaient plus du tout un obstacle à son corps de résurrection. Et on a l'impression que Jean s'en veut de ne pas avoir réellement compris, tout comme ses condisciples d'ailleurs, que Jésus devait bien ressusciter le troisième jour, comme il leur avait dit à plusieurs reprises, et pas simplement une vague espérance d'une résurrection des justes à la fin des temps. Vous notez que les chefs des prêtres et les pharisiens, eux, se souvenaient bien que Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Certes, ils ne le croyaient pas, mais ils craignaient quand même que les disciples de Jésus n'utilisent cette parole pour entretenir la légende de sa résurrection en dérobant son corps. Jean a donc cru en voyant le tombeau vide. La réaction de Pierre n'est pas mentionnée là dans ce passage, mais l'apôtre Paul nous dit que Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à Jacques, puis à tous les apôtres. Il nous dit ça en 1 Corinthiens 15. Il y a donc bien eu une apparition spéciale, je pense, à Pierre. Ils avaient certainement des choses à se dire. Et donc les deux disciples s'en retournent chez eux. À partir du verset 11, Jésus revient à Marie de Magdala. Elle se tient dehors, près du tombeau, et pleure. Elle ne peut pas quitter le tombeau et retourner chez elle. Elle n'est pas convaincue que son Seigneur est ressuscité et ne peut émotionnellement pas quitter le tombeau. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et là, elle voit deux anges, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Il s'adresse à elle, « Pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Elle voulait absolument rendre au corps de Jésus les honneurs funéraires qu'elle avait projetés de lui rendre avec l'autre Marie. Alors Jésus intervient en personne et lui pose la même question que les anges. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Marie de Magdala croit avoir affaire au jardinier et lui demande où il a mis le corps de Jésus pour qu'elle puisse aller le reprendre. Elle s'attache toujours au corps mort de son maître qu'elle veut honorer à tout prix. Alors Jésus se dévoile en l'appelant simplement par son prénom, Marie. Et c'est dans cette parole si extraordinaire et douce pour elle qu'elle le reconnaît enfin. Rabboni, qui veut dire maître, titre de celui qui l'a enseigné, hein, le maître qui enseigne, c'est le terme, hein, c'est ça, l'enseignant, et qui l'a peut-être délivré d'une possession démoniaque, on voit ça dans Marc 16, verset 9. Je dis peut-être parce que ce verset 9 de Marc 16 appartient à un passage dont l'authenticité n'est pas absolument certaine. Ce phénomène de non-reconnaissance immédiate du ressuscité va se reproduire à chacune des apparitions aux siens après sa résurrection. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite, mais seulement après une parole ou un geste, et puis même quelquefois ils gardent des doutes. L'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens 5, 16, « Si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Le verset 17 de notre passage est d'interprétation un peu difficile. La traduction littérale est « Ne me touche pas », Jésus qui dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas ou cesse de me toucher, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » L'expression « ne me touche pas », du fait du temps utilisé, en grec, hein, peut être légitimement traduite par « cesse de me toucher » ou bien « cesse de t'accrocher à moi ». ou comme la traduction du semeur, ne me retient pas. Je pense qu'il n'y a pas à imaginer une interdiction un peu mystérieuse de toucher le corps de résurrection de Jésus avant son ascension vers le Père. Car dans le même chapitre, un peu plus loin, on ne l'a pas lu, hein, il va inviter son disciple Thomas à mettre ses doigts dans la marque des clous et ses mains dans les marques des clous de ses mains et de ses pieds, et dans la blessure infligée à son côté par la lance du soldat romain. Je pense que Jésus a simplement voulu dire à Marie qu'elle avait mieux à faire. Aller porter la nouvelle de sa résurrection aux disciples qui étaient restés chez eux, et dans des termes qui sont le glorieux résultat de son œuvre à la croix. Dieu est leur Père de façon encore plus intime que celui que Jésus les invitait à prier dans la prière qu'il leur a enseignée quelque temps avant, que nous appelons notre Père. C'est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Rappelons-nous ces beaux versets du prologue de l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est de Dieu qu'ils sont nés. Nous sommes réellement nés de Dieu. Je crois que c'est la première fois que Jésus utilise à leur endroit cette expression « mes frères ». Va vers mes frères. Je pense que Jésus utilise ce terme pour désigner ses disciples parce que depuis qu'il a expié leurs péchés, et d'ailleurs ceux de tous les croyants, à la croix, ils sont une nouvelle création, comme le dira Paul en 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Est-ce que nous réalisons cela? Nous sommes enfants de Dieu et frères de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au verset 18, Marie obéit à l'ordre de Jésus et va annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». De plus, elle leur rapporte le message qu'il lui a confié de son ascension prochaine vers le Père et de leur dignité nouvelle de frères du ressuscité. Alors donc, j'avais intitulé ce message, je vous l'ai dit au début, « Impuissance de Satan et de ceux qui lui obéissent, émerveillement de ceux auxquels le Seigneur se révèle ». Les autorités juives ont obtenu la condamnation et la mise à mort de Jésus, le prince de la vie. Comme le dit Pierre en acte 3, verset 15, « Vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous, nous sommes témoins. » Ils ont été jusqu'à faire garder son tombeau et y apposer des scellés, de peur que ses disciples dérobent son corps pour faire croire qu'il était ressuscité. Malgré tous ses plans, toutes ses intrigues et toutes ses précautions, le corps de Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais il est vivant au siècle des siècles. La résurrection de Jésus-Christ est la vérité la plus fondamentale de la foi chrétienne. Ce sera d'ailleurs le thème de la prédication des apôtres, de Pierre d'abord à Jérusalem, à la Pentecôte, puis de Paul dans tout le monde païen de l'époque. Cette prédication rencontrera immanquablement l'hostilité des Juifs et la moquerie des païens. Mais certains seront convaincus et ajouteront foi aux paroles des apôtres et seront ainsi ajoutés au grand peuple des rachetés. Notre foi repose sur la résurrection de Jésus. Elle est la preuve que la colère de Dieu contre le péché a été définitivement apaisée parce que son Saint-Fils l'a subi à notre place. Elle est même la preuve que nos péchés, passés, présents et futurs, sont effacés pour l'éternité. Alors, nous pouvons exprimer notre reconnaissance, n'est-ce pas? Au Père, de nous avoir donné son Saint-Fils pour l'expiation de nos péchés à notre place. Au Fils, d'avoir accepté cette mission terrible, à un point que nous ne pourrons jamais réellement sonder. Au Saint-Esprit, d'avoir déployé sa puissance en ressuscitant notre Sauveur. Tout cela, fruit de l'amour et de la grâce du Dieu Trinitaire, auquel soit la gloire et la louange de son peuple au siècle des siècles. Amen.